Chapitre 11. Chartres était une ville truffée de points de chute potentiels. Près d'une centaine de personnes du groupe y vivaient et y travaillaient. Nous n'utilisions ni listing ni organigramme, il n'y avait aucune trace de l'appartenance de chacun à notre réseau. Tout reposait sur des contacts personnels au sein d'un même échelon. Les gardes se connaissaient entre eux, je n'étais pour ma part en relation qu'avec les dirigeants du groupe et leur équivalent parmi les moines et les supérieurs de la confrérie. Ce principe garantissait la sécurité et la réalité humaine du groupe. J'étais en lien avec les frères résidant au presbytère de l'église Saint-André et étais certain d'y trouver l'hospitalité. L'hélico me déposa à quelques kilomètres de la ville. Un garde m'attendait avec une voiture pour me conduire dans le centre. Quelle que soit la direction d'où l'on arrive, le premier édifice que l'on aperçoit est forcément la cathédrale. Ses flèches inégales et sa toiture vert de gris semblent posées au milieu de nulle part, tant elles apparaissent bien avant la cité qui l'entoure. Pour les uns, Notre-Dame de Chartres est le joyau du gothique, pour les autres, un ancien lieu druidique, un fief templier, un lieu de pèlerinage, ou même la porte vers un autre monde. Sa magnificence et son passé chargé d'histoire en font un lieu de prédilection pour les allumés de toutes sortes, les faux spirites et les vendeurs de secrets de polichinelle. La vieille ville a été construite autour de la cathédrale, sur une colline. Les quartiers anciens s'étendent sur les flancs, descendant à l'est jusqu'à l'heure. De l'autre côté, la limite est plus floue et le moderne jouxte l'ancien. La voiture s'arrêta au bout de la rue de la Tannerie. Je descendis et continuai seul. Le gel de la nuit n'avait pas encore complètement disparu. La rue longeait joliment le fleuve. Les maisons à colombages avaient le cachet des cités médiévales. L'eau était limpide, le courant rapide. Des canards barbotaient de lavoir en lavoir. Les arbres centenaires complétaient ce tableau idyllique. La demeure des frères était située sur la berge opposée. Le temps était clair, l'air vif. Sur certaines façades et dans les jardins, des décorations annonçaient Noël. Deux femmes, revenant visiblement des courses, papotaient sur le trottoir. Une matinée d'hiver ordinaire en France. J'enfilai les trois ponts enjambant l'heure et allai frapper à l'entrée du presbytère. Au bout de quelques instants, la porte s'entrebâilla sur une jeune fille en robe bleue. Elle avait les traits très fins, le regard pétillant et les joues rosies par le froid. « Bonjour, la saluai-je. Je viens voir Benoît. Pouvez-vous me dire s'il est là ?»« C'est à quel sujet ? Dites-lui que je viens de loin et qu'il est sur ma route. » La jeune fille referma le battant après m'avoir demandé de patienter. Il n'y avait dans ma réponse aucun code, seulement la vérité. Les formules magiques n'avaient jamais été une spécialité du groupe, pas pour ces situations. Cette fois, ce fut un homme qui vint m'ouvrir. Il me fit signe de lui emboîter le pas et me précéda dans les corridors de la vieille maison. Benoît est dans l'église, il va vous recevoir. Nous passâmes devant plusieurs portes. Beaucoup étaient fermées, mais certaines laissaient entrevoir des bureaux encombrés de livres et de documents. Nous traversâmes un petit jardin à la luxuriance strictement maîtrisée, puis pénétrâmes dans l'église et débouchâmes dans la nef. Mon guide appela doucement, et Benoît apparut. J'étais dans la pénombre, il ne me reconnut que lorsqu'il fut tout proche, dans la lumière diffuse des vitraux qui déposaient leurs couleurs sur mon visage.
« Quelle surprise, toi ici! Quel bon vent t'amène !»
En serrant mes mains entre les siennes, il ajouta
« C'est un bon vent au moins !»
Benoît remercia l'homme qui m'avait introduit et m'entraîna au centre de l'édifice. Je retrouvai avec plaisir sa généreuse corpulence et le visage débonnaire et confiant de l'homme qui a vécu bien des choses, mais a choisi de n'en retenir que le positif. À bien y regarder, ses sourcils en bataille, ses cheveux courts et son regard perçant correspondaient tout à fait à l'image que l'on se fait généralement des moines. Nous nous assîmes. Je lui racontai ce que je pouvais. Il comprit, et n'en demanda pas davantage. « Tu peux loger ici aussi longtemps que tu le souhaites, » assura-t-il. « Quant à ton rendez-vous, « je te laisse l'organiser à ta guise. Tu connais les passages et les souterrains aussi bien que moi. J'avertirai tout le monde. Si nous pouvons t'aider, Il te suffit de demander.